Bonsoir.
Vous êtes bien sûr J'enrage, votre émission féministe lilloise qui est là tous les 15 jours sur RCV. Et donc sur J'enrage, à minuit et demi, vous aurez juste envie de sortir de votre lit et d'aller faire un petit footing dehors, parce qu'on rend toutes les théories et politiques féministes sexy, hot, enragées, déchaînées, bref, on vous électrise. Et tout de suite, là, je suis avec Zab et Anaëlle. Et donc, Anaëlle, je te laisse la parole pour annoncer le programme.
Bonsoir, donc oui, bienvenue sur RCV. Au programme de ce soir, on va commencer par un petit flash info qui sera suivi de la présentation d'un texte de Gloria Anzaldúa qui s'appelle « Une conscience de la mestiza ». On poursuivra avec donc Suzanne qui nous parlera, enfin qui fera un retour sur la paranoïa médiatico-politique de la théorie du gender, et on terminera
gender. J'aime le gender.
Gendé enfin.
Gendon mes amis.
Voilà, ça promet d'être assez drôle.
La gendé sous la française menace.
Vous voyez qu'on est bien, bien en forme ce soir. Et on terminera donc avec Zab qui reviendra sur le documentaire Histoire d'A, donc qui est un documentaire cinématographique. Et on parlera aussi de l'avortement. Voilà. Alors on flash info, donc c'est moi qui le présente. Deux informations qui datent d'aujourd'hui. Une première qui a été retransmise par Rue 89 et qui explique qu'en fait qui explique qu'en fait 142 transsexuels suédois demandent réparation à l'État parce qu'ils ont subi une stérilisation forcée lors de leur changement de sexe entre 1972 et 2012. Donc en fait, ils demandent. Alors, j'ai pas le montant en couronne, mais ils demandent 5 millions d'euros de réparation. D'après la présidente de la fédération, Ulrika Wusterlund, pardon. J'avais mal écrit le nom. La demande ne concerne que 142 personnes, mais en fait, il y aurait 800 personnes de concernées par cette stérilisation forcée. Donc voilà. Et la deuxième information, c'est Libération qui nous la transmet, c'est Coy Matisse, qui est une enfant de 6 ans et qui est née avec un sexe masculin mais qui s'identifie comme étant une fille. Donc en fait, après en avoir discuté avec cette petite fille, donc les parents en informe l'école, donc disent qu'elle s'identifie.
C'est où peut-être ?
C'est aux États-Unis, okay. Oui, pardon. C'est aux États-Unis, dans l'État du Colorado. Et donc en fait, les parents de cette petite fille informent l'école, donc qu'elle doit être traitée comme une petite fille parce que c'est comme ça qu'elle s'identifie. Et en décembre, l'école interdit l'accès des toilettes des filles à Coy Matisse. Donc les parents font un recours, ou enfin, je ne sais pas s'ils déposent plainte ou s'ils font un recours. En tout cas, la division des droits civils, donc dans l'État du Colorado, estime qu'il s'agit d'une discrimination. Et j'en parle parce que, enfin, on en parle parce que c'est le premier jugement, le premier jugement de cette considération transgenre qui est rendue dans cet État aux États-Unis. Voilà pour le flash info de ce soir.
Ok, bah on va peut-être passer une petite musique juste avant de parler de la conscience de la mestiza. Et je vous balance Boy George, do you really want to hurt me?
Popularity breeds contempt.
Give me a time.
Do you really want to make me cry?
words of you I have spoken. I could waste a thousand years wrapped in sorrow. Words are talking. Come inside and catch my tears. You've been talking about, believe me, if it's true you do not know.
Donc de retour sur RCV, je vais donc vous présenter le texte de Gloria Anzaldúa, Une conscience de la mestiza. Alors avant de rentrer dans le cœur du sujet, c'est un texte qu'on retrouve dans un recueil de différents textes en fait qui s'appelle Théorie féministe et queer décoloniale, intervention chicanas et latinas états-uniennes. C'est le premier texte. C'est le premier recueil de textes féministes chicana et latina qui a été traduit en français. Donc la traduction date de 2011 ou 2012. Enfin, c'est très 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 récent. Donc voilà. Et donc la mestiza, je vais pas le traduire au fur et à mesure de mon. C'est un mot espagnol et je vais pas le traduire durant mon explication. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment. Dans ce contexte-là, il n'y a pas vraiment de traduction qui convienne. Le premier à parler de conscience mestiza, il s'appelle José Vasconcelos et c'est un philosophe mexicain. Donc en fait, lui, il parle de. Il emploie le terme de mestiza dans le. En tant que race cosmique, en fait, qui serait une espèce de croisement racial, idéologique, culturel et biologique. Donc Anzaldúa reprend ce concept et en fait une conscience féministe, donc à peu près sur le même modèle. Donc en fait, les origines de cette conscience viennent du fait que, parce que Gloria Anzaldúa est féministe lesbienne chicanas, donc en fait, elle écrit cette nouvelle conscience ? Parce qu'elle, elle vient donc d'une pluralité de cultures, entre la culture mexicaine, la culture indienne et la culture américaine qui forment la culture chicana. Donc ça, c'est pour les cultures ethniques et raciales. À l'intérieur de ça, il y a aussi la culture lesbienne qui va jouer un rôle et qu'on retrouvera plus tard. Donc en fait, Gloria Anzaldúa écrit que la mestiza est un produit, en fait, un produit de transfert de valeurs culturelles et spirituelles, et donc qui est en perpétuelle transition. Donc c'est une conscience qui se construit chaque jour et à chaque moment et qui se remet énormément en question, etc. Et donc, elle vient du fait que les personnes qui, enfin, ces consciences reçoivent des messages propres à chaque culture, donc reçoivent des messages qui sont multiples et qui sont souvent contradictoires, et donc en fait leur donnent des cadres de référence qui sont incompatibles et qui forment des espèces de collisions culturelles. Donc là, dans le cadre d'Anzaldúa, qui seraient des collisions culturelles mexicaines, américaines et indiennes. Donc en fait, elle se retrouve dans aucune culture parce qu'elle a les trois en elle. La première réaction à ce mélange serait d'être en opposition, donc soit de s'identifier comme étant mexicaine et être en opposition avec la culture américaine, ou indienne et aussi en opposition avec la culture américaine. C'est souvent ce qui revient parce que c'est la culture dominante, et donc d'être en réaction, pour résumer, à la culture dominante. Le problème que ça pose pour Anzaldúa, c'est que c'est un premier pas vers la libération de la domination culturelle, pardon, mais seulement un premier pas, parce que le fait de rester bloqué comme ça dans une dualité, elle écrit, je vais vous faire une citation pour que ce soit plus clair, elle écrit: à un certain moment de notre cheminement vers une nouvelle conscience, nous devrons quitter l'autre rive du fleuve, la déchirure entre les deux adversaires mortels étant en quelque sorte guérie, de manière à ce que nous puissions être des deux côtés à la fois. Donc c'est un texte qui est très imagé, donc je vais essayer de synthétiser le plus possible, parce que là elle parle des deux côtés du fleuve. En gros, l'idée c'est, au lieu de s'identifier à une seule culture et d'être en opposition à une autre, c'est d'essayer de gérer avec les trois cultures ou les quatre cultures, enfin avec la diversité des cultures dont on est issu, pour en faire une toute nouvelle et de prendre ce qui nous appartient, ce qui nous construit et ce qui nous intéresse dans les trois cultures, et de laisser ce qui nous intéresse pas. On le voit dans la suite du texte. En fait, ce qui est très très important dans cette conscience, c'est la flexibilité. Elle écrit: les frontières et les murs qui sont censés maintenir les pensées indésirables à l'extérieur sont des habitudes et des schémas de comportement bien ancrés. Ces habitudes et ces schémas sont l'ennemi intérieur. La rigidité signifie la mort. Donc en fait, l'objectif est de sortir des formations habituelles des cultures qui correspondent, enfin auxquelles s'identifient ces consciences-là, et donc de passer d'une pensée convergente à une pensée divergente, et donc d'être dans un mouvement d'éloignement des schémas et des buts préétablis. Donc en gros, ce serait une pensée qui serait plutôt incluante qu'excluante, donc vraiment inclure dans la nouvelle conscience tout ce qui nous construit, tout ce qui nous forme, et tout ce qui est positif et qu'on trouve positif dans les cultures auxquelles on s'identifie. Ce qui suppose une grande tolérance pour les contradictions et une grande tolérance aussi pour l'ambiguïté. Donc en fait, il faut, enfin, d'après Anzaldúa, et c'est ce qu'elle prône, il faut jongler avec les différentes cultures, etc. Il faut se former une personnalité qui est plurielle, opérer sur un mode pluraliste. Et donc, en fait, elle écrit que la mestiza se situe au point de jonction où les phénomènes tendent à entrer en collision. Donc c'est vraiment... elle dit qu'aussi c'est un travail qui est très très douloureux, qui est très difficile parce qu'il est quotidien et qu'il est constant. Et c'est vraiment, c'est comme si la mestiza était en équilibre entre, ouais, vraiment au point de jonction entre elle est en équilibre entre le moment où les différents phénomènes qui constituent la conscience soit se heurtent, soit se séparent, et elle essaie de réunir les trois sans les détruire. Donc l'énergie, donc c'est parce que comme c'est un travail très difficile, etc., il faut une certaine énergie. L'énergie se trouve dans le mouvement créatif continuel. Donc en fait, l'objectif est vraiment de dissoudre sans arrêt l'aspect unitaire de chaque nouveau paradigme qui est abordé par la conscience en question. Ouais, c'est ça. C'est vraiment de défaire la dualité sujet-objet, parce que en fait, la mestiza devient l'objet de son propre travail pour se réaliser en tant que sujet. C'est assez, ça peut être assez abstrait, mais c'est vraiment elle transcende la dualité.
Est-ce que c'est pas un peu l'idée aussi que si je peux pas.
Ouais, vas-y, je t'en prie.
En fait, dans la dualité sujet-objet, puisqu'elle parle de opposition de culture, si en tant que minorité en fait ethnique, enfin en tant qu'appartenant, pouvant s'identifier à une minorité ethnique, la minorité chicanas, enfin par exemple à la culture mexicaine, d'une certaine manière, dans sa lutte, elle objectiverait en fait en se faisant sujet de sa propre culture, elle objectiverait la culture américaine enfin la culture américaine blanche en fait en l'analysant etc en se faisant sujet tu objectives la culture à celle la culture à laquelle tu t'opposes et c'est justement peut-être ça qu'elle entend par dualité dépasser la dualité sujet objet c'est-à-dire finalement ne pas qui revient finalement à une posture oppositionnelle quoi le fait de quand tu t'identifies à quelque chose et que tu t'opposes finalement à une autre catégorie ou etc forcément tu te constitues en sujet et tu produit un objet.
Ouais, justement l'idée de défaire cette dualité là, pour justement pas rester en opposition, parce que ce qu'elle trouve très important, c'est pas de réagir, mais c'est d'agir en fait. C'est vraiment de construire quelque chose de totalement nouveau qui prend en compte tous les aspects des cultures différentes qui constituent les personnes, en l'occurrence la Chicana. Donc ouais, ce serait à peu près ça. Alors elle dit aussi qu'il y a une phrase très simple, que je trouve très importante dans son texte, la mestiza n'a pas de pays, parce qu'elle a été exclue de son pays en tant que mestiza, mais qu'elle appartient à tous les pays, parce qu'elle serait l'amante ou la sœur potentielle de chaque femme du monde. Qu'en tant que lesbienne, elle n'a pas de peuple, mais qu'elle appartient à tous les peuples, parce que ce qu'il y a de queer donc en elle, existe dans chaque peuple. Alors là, juste une note de vocabulaire. Le terme de queer qui est employé par Anzaldúa et antérieure à la théorie queer, donc en fait c'est vraiment elle l'utilise comme en tant que sujet en dehors de la normativité de genre et de sexualité, ouais. Donc il n'y a pas de d'impact politique
avant, en fait qu'il ait été réapproprié en tant qu'insulte,
ouais, voilà, en tant qu'insulte
à son état d'insulte, enfin de ouais,
ouais, voilà, et qui du coup il n'y a pas de portée politique à ce terme là etc. Et ensuite, en tant que féministe, elle n'a pas de culture, mais elle est inscrite dans une nouvelle culture qu'elle s'efforce, elle et d'autres personnes aussi, qu'elle s'efforce de construire tous les jours. D'ailleurs, par rapport à la culture, elle écrit « Pourtant, je suis inscrite dans une culture parce que je participe à la création d'une nouvelle culture, d'un nouveau récit pour expliquer le monde et notre participation à ce monde, un nouveau système de valeurs dont les images et les symboles nous lient les uns et les unes aux autres et à la planète. » Donc c'est vraiment incluant, elle exclut personne de son combat. Donc jusqu'à présent, elle était restée pas mal axée sur les différences raciales et culturelles, surtout culturelles d'ailleurs. Et là, elle replace la femme, donc on est à peu près au milieu du texte, elle replace la femme au centre de son texte. Et en fait, elle l'introduit par une métaphore, un peu comme un conte, et elle écrit qu'en gros, ce qui est important de faire à partir du moment où on a fait ce travail-là, d'essayer de construire une nouvelle conscience, etc., de se défaire de tout, pour ensuite, enfin, tout déconstruire pour ensuite tout reconstruire. Ce qui est important de faire, c'est faire le tri entre toutes les cultures et toutes les éducations qu'on a reçues, savoir ce qu'on garde. Ce avec quelles valeurs on a été élevé, etc., ce qu'on a acquis et ce dont on se débarrasse, ce dont on se sent pas proche, etc. Et à partir de là, on pourra vraiment se reconstruire. C'est très important de renoncer à la familiarité, à la sécurité et vraiment construire quelque chose, se mettre en danger. Alors, à partir de ce moment-là, son texte prend un autre tournant et s'apparente plutôt à un manifeste. Donc en fait, elle parle de combat. Donc la première chose qu'elle exige en tant que femme mestiza, c'est la fin du machisme, parce que le machisme, comme on l'entend aujourd'hui, pour elle, c'est un faux machisme qui est une invention américaine et donc qui est une adaptation à l'oppression. Parce que en fait, les machistes chicana ou mexicains rabaissent leurs femmes et sont violents avec eux parce que ils ont été eux-mêmes rabaissés et humiliés par la culture dominante en tant que sous-culture ou culture pauvre, etc. Et donc, elle demande à ce que ce que soit reconnue cette, cette oppression et que les hommes chicana, mexicains, reconnaissent le fait d'être, d'avoir peur des femmes, d'avoir peur de leur pouvoir et d'être soumis à l'oppression américaine pour arrêter d'être violent, en gros, pour simplifier. Et parce qu'elle explique aussi que les hommes sont encore plus enchaînés au rôle de genre que les femmes, parce que seules les femmes ont eu le courage de se défaire des chaînes de genre qui leur étaient attribuées. Et elle explique aussi dans cette partie-là que les homosexuels sont très très importants parce qu'ils sont un lien entre tous les peuples en fait. Parce qu'ils ont été dans tous les peuples persécutés d'une manière générale ou en tout cas mal acceptés. Et que ils doivent vraiment former un lien entre les peuples. Elle écrit qu'ils sont les suprêmes franchisseurs ou franchisseuses de culture. Et qu'en plus les homosexuels de couleur ont plus de connaissances de l'injustice et de la difficulté à se faire accepter que les autres parce qu'ils ont le racisme à combattre en plus de l'homophobie. Et enfin elle revient sur donc là elle parle de combat interne à sa propre culture et ensuite elle revient au combat entre les cultures d'Amérique latine en général et la culture du peuple blanc, donc en fait l'opposition entre les deux cultures. Et elle dit qu'elle veut bien être médiatrice entre les peuples de couleur et le peuple blanc parce qu'il y a beaucoup de gens de couleur ou de femmes de couleur qui refusent de s'intéresser, enfin de servir d'éducatrice aux femmes blanches parce qu'elles trouvent que ça sert à rien. Pour elle, l'éducation est super importante et donc elle veut bien faire la médiatrice. Et donc qui est pour elle très important de partager son histoire de son peuple, etc. pour que ce soit connu. Donc elle demande une restitution publique aussi. Alors là, je vous fais juste une citation parce que c'est super intéressant et j'ai presque fini. Elle dit « Nous avons besoin d'une restitution publique que vous disiez que pour compenser le sentiment de votre défectuosité, donc là elle parle du peuple blanc, vous essayez d'avoir du pouvoir sur nous, effaçant notre histoire et notre expérience qui vous font vous sentir coupable, vous préféreriez oublier vos actes brutaux. » Donc en fait là c'est ce qu'elle exige du peuple blanc par rapport à son peuple. Une restitution comme des excuses publiques en fait. Donc ouais, elle demande la construction d'une base commune à tous les peuples et donc de sortir également de cette dualité d'oppresseur opprimé par rapport aux cultures, etc. Et juste pour conclure, pour elle, un des objectifs de son peuple, donc du peuple auquel elle appartient, elle demande d'appartenir et de contribuer à quelque chose de plus vaste que son propre peuple, pardon. Alors ça se retrouve à la fin du texte. Alors je reviens très peu dessus parce que en fait elle parle beaucoup d'elle-même et ça parle moins de combat, etc. Elle parle d'une journée commémorative et nationale de son peuple enfin voilà. Du coup c'est beaucoup plus personnel. Et je voulais revenir aussi sur le fait que ce qu'elle évoque dans son texte, c'est un voyage, c'est vraiment un voyage. Enfin, en tout cas, en plus, elle l'écrit comme tel. C'est un voyage intérieur qui part vraiment d'une déconstruction complète de l'être qu'on est avec toutes les ambivalences de culture, etc. et de l'être qu'on devient. Donc c'est un voyage intérieur et c'est aussi un voyage physique et réel parce que à la fin du texte, dans la dernière partie du texte, elle parle d'un retour sur ses terres, sur les terres sur lesquelles elle a grandi, etc. et qu'elle a pas vu depuis très longtemps. Moi j'ai vu ça un peu comme ça, mais l'image de une fois qu'elle a terminé son voyage intérieur, qui est passé par un voyage physique et des rencontres différentes, de différentes cultures aussi, de différentes histoires, elle peut enfin revenir sur cette terre avec la nouvelle conscience qu'elle s'est formée et sentir chez elle quand même parce qu'elle a intégré une partie de cette culture-là. Voilà.
Ok.
Zab, je sais pas si ça t'évoque.
Ouais, en fait, moi j'ai trouvé ça super intéressant. C'est vrai que ça me semble assez difficile d'articuler, plusieurs, on va dire, identités à la fois. Surtout l'identité chicana et lesbienne, étant donné que l'identité chicana, ou en tant que le système de valeurs chicana est assez sexiste. Donc c'est à mon avis, c'est très difficile à articuler.
Et ce qui est très intéressant, c'est l'idée selon laquelle en partie, le sexisme des hommes chicanas est aussi produit en fait par le racisme, qui en fait d'une certaine manière produit en fait une communauté, marginalise, exclut, et a une logique ségrégationniste en fait, et du coup produit une volonté de pouvoir, en tout cas un pouvoir d'appropriation ou de domination sur les femmes, mais que d'une certaine, c'est intéressant qu'elle articule avec le racisme.
Oui, carrément. Après, je pense que c'est bon. Après, c'était pour pouvoir faire plus vite, mais enfin, il faut pas simplifier non plus. C'est pas juste une simple reproduction de la, certaine forme de violence, quoi. Mais je trouve ça assez intéressant. Et
excuse-moi, je te coupe, mais vas-y. Juste pour revenir sur le système d'oppression, etc. Parce que, enfin, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour elle, c'est une espèce de cercle vicieux, en fait. Parce que la culture dominante américaine produit ce machisme en réaction à une peur d'être dépassée par la culture mexicaine ou chicanas ou latinas, en fait. Et donc, c'est comme si, en réaction à la peur, il formait une violence et en fait, en ségrégant et en étant raciste avec ces peuples-là, il réagit en réaction à une peur. Enfin, c'est comme un cercle vicieux de violence, en fait.
Ça fait vraiment penser, là, du coup, je vais me permettre de faire un pont transnational. Mais ça fait vraiment penser au contexte colonial, en fait, des pays britanniques notamment et des pays français qui ont contribué. Enfin, il y a plusieurs travaux, là je serais incapable d'en citer malheureusement, mais il y a plusieurs travaux qui ont montré que en retournant sur la généalogie, en fait, faisant un travail généalogique sur les représentations par les colons des colonisés, ont montré en fait que les colonisateurs ont contribué, enfin la colonisation a contribué à produire des représentations c'est Frantz Fanon notamment qui en parle en fait dans Les damnés de la terre. Frantz Fanon qui est vraiment un théoricien réappropriée par les mouvements anti-impérialistes, enfin voilà, qui a écrit sur la colonisation, enfin vraiment voilà. Et Frantz Fanon dit notamment qu'en gros le noir a été produit a été sur-sexualisé, en fait. Donc, l'homme noir a été hyper virilisé. L'hyper virilisation du noir fait partie des fantasmes produits par la colonisation et qui est, en fait, occidentaux, qui est basé sur une volonté, un désir, en fait, d'émasculation, d'une peur, en fait, précisément d'une peur, d'une angoisse irrationnelle, d'un renversement de la domination ou quelque chose comme ça, et qui, du coup, produit, en fait, dans le fantasme, une hyper virilisation que le colon vient émasculer en produisant un esclave. Enfin, c'est vachement intéressant de travailler sur les représentations, mais du coup ça me faisait vachement penser à ce que tu disais, parce que cette idée de minorité ethnique construit en fait dans l'imaginaire américain blanc comme une menace une menace violente, etc., et intéressant de ce point de vue là en fait, même si là c'est pas vraiment lié au contexte colonial, mais c'est lié à un contexte de minorité ethnique raciale, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis elle revient, ça permet aussi d'une certaine manière, parce qu'elle est pas du tout non plus dans la elle est pas vraiment dans la condamnation, du coup, en disant ça, elle essaie d'expliquer, alors elle est pas dans la reconnaissance non plus. Elle l'écrit d'ailleurs, on peut comprendre pourquoi nos hommes, enfin les hommes de son peuple sont machos et violents, mais c'est pas pour ça qu'on l'excuse et qu'on le tolère. Enfin, elle dit, nous ne le supporterons plus, elle l'écrit d'ailleurs, elle dit, on peut le comprendre, mais on le supporte plus, quoi. Donc maintenant, il faut une restitution publique de la culture blanche qui accepte ses erreurs et ses actes brutaux sur la communauté chicana, latina, etc. Et une reconnaissance aussi des hommes de son peuple du fait, enfin de la domination qui soit formée comme ça sur une oppression et sur une violence qui n'arrive pas à combattre et du coup qui reproduit sur leurs femmes. Mm. Du coup, ça, je t'ai coupé tout à l'heure.
Oui, non, c'est pas très grave. Ouais, non, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est justement, finalement, comment des identités se constituent dans des situations où il y a des rapports de pouvoir qui sont très importants. Là, une domination culturelle et ensuite une domination qu'on va appeler masculine, enfin, un rapport de pouvoir, en tout cas, entre hommes et femmes et entre une culture et une autre. Et en fait, généralement, je me suis rendu compte qu'il y a quand même, c'est quand même, enfin que ça façonne quand même pas mal les identités, ces rapports de pouvoir, et avec la politisation en plus des identités, il y a aussi généralement une marcation des traits qui différencie une identité d'une autre. Donc par exemple là, en l'occurrence, l'identité chicana. Avec la politisation donc de cette identité, il va y avoir une convergence des traits chicana, on va dire, de l'identité qui vont être plus fortes, ouais. Justement en réaction à l'identité blanche, quoi. Mais du coup, ce serait hyper intéressant de voir comment ça façonne les identités. Bon, il y en a pas une seule, quoi. Lesbiennes, mexicaines, quoi.
Ouais, parce que là, c'est vrai qu'elle parle pas mal. Elle se positionne pas tant en
tant que lesbienne.
Ouais, voilà, elle se positionne pas en tant que, enfin, pas trop. En fait, ça c'est toujours en fond dans son texte, mais c'est pas ça qu'elle revendique. Enfin, c'est pas ça qu'elle demande, en fait. Et du coup, ouais, c'est vrai que c'est intéressant. En plus, elle dit qu'il y a plusieurs chemins qui sont possibles. J'ai pas lu la citation tout à l'heure, mais qu'en gros, quand on sort de l'opposition, quand on sort de la dualité et de la réaction pour passer dans l'action, il y a plusieurs chemins possibles. Ou on essaie d'englober les trois. Donc la citation que j'ai lue de l'autre côté du fleuve, en essayant de prendre du recul sur les différentes cultures desquelles on est issu, en prenant tout ce qui nous intéresse et pour former une nouvelle culture. Ou alors il y a le choix, justement, il y a un autre choix possible, enfin il y en a plein d'autres possibles, mais un autre qu'elle cite, c'est aussi de s'identifier complètement à une des trois cultures ou à deux des cultures, par exemple la mexicaine et indienne, et de rejeter complètement la culture blanche, et de créer des nouveaux chemins à partir de la culture mexicaine et indienne. Donc il y a encore une idée de création et d'action, et pas juste d'être en réaction à la culture blanche, mais de la rayer de la carte, quoi, pratiquement, faire comme si elle n'existait pas, et créer vraiment un mouvement à partir de la...
D'autonomisation complète, en fait,
Autonomisation complète d'une culture mexicaine et indienne en niant totalement l'existence de la culture blanche. Elle part du principe qu'elle appartient aussi à la culture blanche, même si... Parce qu'en fait, la difficulté, c'est qu'elle l'est reconnue ni par la communauté mexicaine parce qu'elle est chicana, ni par la communauté indienne parce qu'elle a aussi des origines mexicaines, et elle n'est pas non plus reconnue par la communauté, par le peuple américain blanc parce qu'elle est chicana aussi. En fait, le problème, c'est ça, c'est aussi l'intérêt de construire une nouvelle conscience. Elle est acceptée par aucun peuple. C'est aussi pour ça.
C'est la difficulté de se construire dans une société extrêmement racialisée et ségrégée, en fait.
Ouais, parce que elle remet pas. Alors, elle parle beaucoup de la société blanche américaine, mais il n'y a pas que ça qui est remis en question. C'est aussi le fait que la société américaine mexicaine ne l'accepte pas parce qu'elle est aussi américaine et indienne, que la société indienne ne l'accepte pas parce qu'elle est aussi mexicaine et américaine, et que la société américaine ne l'accepte pas parce qu'elle est aussi mexicaine et indienne. C'est le problème de l'articulation de ces trois cultures.
Ok. Bah, c'était cool. Peut-être juste pour le rappel, c'était le texte de Gloria Anzaldúa, La conscience de la mestiza.
Ouais, Une conscience de la mestiza.
Une conscience de la mestiza, dont on peut retrouver le lien qu'on a publié sur le Facebook de Jean Rage. Donc Jean Rage, je rappelle, c'est G-E-N-R-A-G-E. Et que vous pouvez trouver également sur Internet en tapant La conscience de la mestiza, Gloria Anzaldúa, A-N-Z-A-L-D-U-A. Voilà,
c'est ça. Bravo, Suzanne.
Voilà, bah du coup, on va passer juste avant de passer à un petit topo sur la théorie du gender. bah justement, moi, je vais vous présenter face à ces néoconservateurs de droite une vieille, mais toujours jeune et aussi révolutionnaire, toujours jeune. Enfin, une vieille révolutionnaire. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Et tout de suite, Brigitte Fontaine pour Prohibition.
J'exhibais ma carte senior sous les yeux goguenards des porcs qui partirent d'un rire obscène vers ma silhouette de sirène. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Passez votre chemin, bâtard, et filez vite au wagon bar. Je fumerai ma cigarette tranquillement dans les toilettes. Partout c'est la prohibition. Alcool à la télévision. Papier clope manque de fric. Et vieillir dans les lieux publics. Partout c'est la prohibition. Paroles, cris, fornication. Foutre interdit à 60 ans. Ou scandale et ricanement. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Les malades sont prohibés. On les jette dans les fossés. À moins qu'ils n'apportent du blé. De la thune aux plus fortunés. Les vieux sont jetés aux orties. À l'asile, au château d'oubli. Voici ce qui m'attend demain. Si jamais je perds mon chemin. J'ai d'autres projets, vous voyez. Je vais baiser, boire et fumer. Je vais m'inventer d'autres cieux, toujours plus vastes et précieux. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille sans voix ni loi. Si je meurs, ce sera de joie.
Et voilà, donc on est de retour après Brigitte Fontaine, Prohibition, avec un retour sur la paranoïa médiatico-politique, que c'est comme ça que j'ai appelé le truc,
autour
sur la théorie du gender, parce que j'avais quand même envie de garder l'expression originale. Je sais pas si vous connaissez gender, c'est quelqu'un de très intéressant. C'est un personnage vraiment qui a des qualités exceptionnelles.
Très controversé aussi.
Très controversé en ce moment. Depuis six mois, gender fait polémique. auprès de ses députés à l'Assemblée nationale de droite, principalement. J'imagine qu'il y a certains PS qui doivent se glisser dans les rangs et qui ont ensuite fait polémique. Vous avez dû entendre Vincent Peillon et ses remarques. Enfin, je vais revenir rapidement là-dessus. Donc voilà, donc en gros, en fait, le 7 décembre 2012, à l'Assemblée nationale, il y a les députés qui se sont réunis. Les députés, pas tous, certains députés qui sont réunis à l'Assemblée nationale pour proposer une commission d'enquête sur la théorie du gender. Alors attention, c'est quoi cette théorie du gender? C'est un truc qui menace...
C'est le gros casse-couille du moment.
Ah là là, c'est un truc qui menace les frontières françaises, qui menace l'identité nationale. Ces mots ne sont pas prononcés, mais on n'en est pas loin. Donc en fait, je vais vous citer vite fait le texte, je vais pas non plus citer le texte en entier, hein. Mais donc en gros, ils présentent un peu ce que, selon eux, peut signifier cette fameuse théorie du gender. Donc là, on se fout un peu de leur gueule, mais quand même, je remets un peu en contexte. Gender, c'est assez drôle parce que ils ont gardé le texte en anglais pour bien, hein, bien distancier et bien altériser le truc, montrer que c'est un truc qui vient de l'étranger, là, de loin, on sait pas trop ce que c'est.
Et qui envahit la France.
Et qui envahit la France et qui vient pénétrer le territoire français, parce qu'il y a vraiment la métaphore sexuelle qui est mise dans le texte des députés, hein. Ils ont vraiment pas froid aux yeux. Donc voilà, donc je commence par ce qu'il dit. Je commence par le début du texte. Je les cite. Notre société est organisée à partir de la différence sexuelle anatomique homme-femme et de son expression culturelle, le genre masculin-féminin, qui lui correspond. Le genre peut être considéré comme le résultat de processus historiques et culturels. Il se réfère à des comportements, des fonctions et des rôles que chaque société assigne à chaque sexe. Donc, en fait, en gros, hein, si on suit un petit peu ce qu'ils disent, en gros, l'idée, c'est que le genre exprime le sexe. Hein, c'est le vieux truc bien naturaliste. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas besoin... en fait, le genre, même si c'est une construction sociale et culturelle, en fait, ça sert un peu à rien, puisqu'en fait, c'est à peu près la même chose que le sexe. Tout est déterminé à la naissance. La différence sexuelle détermine les fonctions, détermine le rôle. Donc, du coup, finalement, pas vraiment besoin d'un terme distinct. Genre, parce que c'est pour ça quand même que le terme de genre est articulé dans les études féministes. C'est quand même pour articuler les conditions sociales et historiques des catégories féminin et masculin et pour montrer que justement, il n'y a pas de déterminisme naturel ou du moins qu'on ne peut pas réduire les catégories hommes-femmes à l'anatomie. Et c'est exactement ce que le texte dit malgré lui.
Moi, je voudrais juste revenir... enfin, c'est juste... Une particularité de vocabulaire, mais il est bien écrit « assigne » en plus. Donc c'est vraiment écrit qu'il n'y a aucun choix là-dedans. Enfin, c'est la société qui décide que t'es féminine ou masculine. Ouais, enfin, ou masculin,
non.
Plutôt.
Non, t'as super raison de dire ça, parce que c'est vrai. En fait, c'est y a des contradictions dans leur texte, fait. Mais
bah ouais,
tout
carrément.
Leur truc. Mais c'est très drôle parce qu'ils ne se rendent pas compte, en fait.
Attends, juste pour... revenir sur la première... Alors, la première phrase, si j'ai bien compris, c'est que la société est organisée selon nos parties génitales, hein, c'est pratiquement ce qu'ils ont dit.
Ouais.
Donc en gros, t'as une chatte, tu fais des gosses, et ta fonction principale, c'est
d'être une maman.
C'est la progéniture, quoi, en gros.
Ah ouais, non, mais c'est carrément ça. Hein.
C'est comeback il y a 3000 siècles, quoi. 3000 ans, pardon.
Ah non, mais c'est exactement ça.
Mais c'est, ouais.
Non, mais de toute façon, ils sont en train de dire que les fonctions et les rôles sont expliqués par la nature. Donc c'est très drôle. Donc si tu veux, en gros, avec ça, on peut expliquer les viols, on peut expliquer les femmes considérées comme plus émotives que les hommes. Enfin, la liste est tellement infinie. En fait, je pourrais pas, mais...
Non, mais en plus, l'égalité entre les sexes, c'est même... Enfin, qui est de toute manière qu'on pourrait discuter. Discuter aujourd'hui, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Là, carrément, c'est ça sert à rien, quoi.
Bah alors justement, ça va venir un petit peu dans leur texte. Vous allez voir.
Parce que c'est dangereux comme ça, comme texte en plus. Enfin, là, si, d'après ce qu'on en dit, pour expliquer les viols et tout, ça peut être super dangereux
comme
texte.
Ah ouais, non mais là, on en rigole, mais...
Non, mais bien sûr, c'est pour ça aussi que...
C'est une bande de conservateurs complètement...
ça fait peur, hein.
Débiles,
des clowns.
Enfin, ouais, c'est... En fait, il faut les rendre quand même à leur fonction de clowns, parce que nous, ça nous fait bien rire. Parce que s'il vous plaît, nous, on passe des... Enfin, bref, nous et plein d'autres, enfin, tout le monde, quoi. On passe des heures à lire des bouquins pour essayer de comprendre et pas réduire le terme de genre à un truc fixe. Et eux, en deux lignes, ils te résument le truc. Enfin, bref. Alors ensuite, il y a une quarantaine d'années, commençait à être enseigné. Alors ils vous refont l'histoire, hein, en trois lignes, c'est très très drôle. Il y a une quarantaine d'années, commençaient à être enseignées aux États-Unis les gender studies, ou études de genre, mettant en lumière, par des méthodes scientifiques, les modes d'organisation de la société à partir de ses fonctions spécifiques assignées à l'homme et à la femme en raison de leurs différences sexuelles et les situations d'inégalité qui en résultent. Il faut bien noter que sur le plan scientifique, il peut être tout à fait intéressant de s'interroger, à travers l'histoire, sur les différences non biologiques entre hommes et femmes en cherchant la racine et les causes des inégalités observées. Mais progressivement, ces gender studies ont intégré la théorie du gender dans leurs travaux. Il est important de souligner que la théorie du gender n'est pas une étude scientifique. C'est un système de pensée et d'organisation globale de la société, refusant en général ce qui est donné par la nature, et en particulier le corps sexué. Donc non, mais c'est vraiment à mourir de rire, parce que en fait, ils se rendent pas compte qu'ils sont mais complètement contradictoires, parce qu'ils parlent des gender studies au début, et puis d'un coup, il y a, boum, théorie du gender qui arrive à partir du ciel. Là, alors on sait pas trop ce que c'est cet ovni, c'est quoi ce truc, alors que bon, dans gender studies, il y a quand même déjà le terme gender, mais bon, c'est pas grave. Donc on homogénéise le tout, on réduit le gender à une théorie, et on fait de tout ça un petit bloc.
Une théorie menaçante, en plus, réduit à un système de pensée. Donc en gros, la philosophie, qui est aussi vue comme un système de pensée, n'est pas une science, faut le savoir, hein.
Ça nique
la philosophie.
Ah ouais, non mais carrément. Non mais en fait, ils veulent en faire une idéologie, enfin. C'est clair, hein. C'est clair.
Une théorie et pas un état de fait, de toute manière.
Ouais, exactement. Et puis, bah voilà, du coup...
Comme la théorie de l'évolution.
Mais c'est ça, en fait. Enfin...
Non, parce que le gender, c'est...
Pas tout à fait. Mais...
C'est contagieux, leur truc. le genre reste quand même un concept qui est articulé après de façon hyper complexe, mais...
Non mais oui, c'était une comparaison.
Ouais, bref. On va pas. Bon. Voilà, je passe à la suite. L'identité sexuelle de l'être humain ne dépendrait donc plus du lien entre son genre social et son sexe anatomique, mais de la perception subjective que chaque individu se fait de son identité, lui permettant ainsi de déterminer librement son orientation sexuelle, quelle que soit sa réalité biologique et anatomique. Celle-ci pourrait donc avoir des formes diverses, hétérosexuel masculin, hétérosexuel féminin, homosexuel, lesbienne, bisexuel, neutre.
Ça, c'est le genre pour eux.
Tout comme elle. Non, mais okay. Ils confondent tout. Non, mais.
Bah ouais, c'est complètement.
Tout comme elle pourrait évoluer dans le temps. En fait, rien ne distinguerait un homme d'un genre féminin, d'une femme, de même que rien ne distinguerait une femme d'un genre masculin, d'un homme. La théorie du genre ne se fonde donc plus sur la différence des sexes, mais sur celle des sexualités. Ouais, bon, alors là.
Mais ils se contredisent complètement. Enfin, c'est n'importe quoi, là. Parce qu'ils parlent des sexualités et de la différence des genres. Enfin, ça n'a strictement rien à voir. Enfin.
Non, alors déjà, non, c'est pas que ça n'a rien à voir. Oui, enfin, oui, c'est clair.
Non, bah non, mais là, dans ce qu'ils disent, c'est que ça n'a rien à voir. Ils articulent deux choses qui n'y font pas ensemble.
Non, bon, déjà, leur liste est quand même très très drôle. Parce que hétérosexuel masculin, hétérosexuel féminin, c'est mieux masculin. Il y a un individu de type hétérosexuel masculin. Il y a un individu de type hétérosexuel féminin. Ensuite, et ça c'est très très drôle aussi, parce que ça c'est un lapsus d'écrit, enfin à l'écrit, ils mettent homosexuel au masculin et ensuite ils mettent lesbienne. Donc en fait les lesbiennes sont pas des homosexuels et les homosexuels sont des hommes.
Ouais.
C'est très drôle, mais ça c'est un lapsus, enfin ils l'ont certainement pas fait exprès, mais ça révèle pas mal de trucs. Et voilà, et en fait il y a une dernière catégorie, on sait pas trop ce que c'est, neutre. Donc...
Alors, sachant que le genre c'est la sexualité, neutre ce serait des non-asexués, parce qu'en plus c'est.
Des non-actifs sexuellement.
Oui, voilà, enfin, c'est ça. Ouais, voilà, non mais en plus ça pourrait être. Enfin, bref,
c'est triste d'être neutre.
Quand même, c'est très triste. Non mais j'imagine qu'il y a... enfin bref. Mais ouais, non mais c'est clair. Et puis bon, dernière chose, donc en fait selon eux la sexualité c'est un truc qu'on enfile comme un vêtement et qu'on sort, qu'on choisit un peu librement là comme ça tranquille. Un matin on se réveille, on se dit allez aujourd'hui je vais être lesbienne, demain aujourd'hui je vais être hétéro, une autre fois je vais être homosexuelle parce que bon lesbienne.
Une fois je vais tenter neutre pour voir ce qu'il y a dedans.
Ouais. Enfin voilà leur truc. Bon, c'est un peu c'est clair que c'est un petit peu flippant. Voilà. Et puis donc.
Mais surtout ça traduit une chose, enfin dont ils connaissent absolument rien parce qu'il y a rien en fait, c'est complètement creux leur texte, parce qu'ils multiplient plein de choses. Pour eux, la théorie du gender se résume à une sexualité, une expression de sexualité différente, ce qui est pas du tout le cas. Enfin, pas tout à fait quoi. Enfin, c'est ouais. Pas.
Non, mais c'est clair.
En fait, moi, je comprends pas. Juste, il y a un truc vraiment que j'arrive pas à comprendre en France. c'est comment, enfin, en gros, l'existence même des identités de genre différentes ou la divulgation du caractère socio-historique ou culturel, finalement, des identités du genre. En gros, c'est-à-dire comment, finalement, c'est le fruit d'une inculcation, quoi. En gros, comment on nous apprend à être nos genres, féminin ou masculin. Comment l'existence de ces deux choses suffit pas à prouver que c'est pas une théorie et c'est un état de fait, quoi. Je sais pas si je me suis fait comprendre.
Non.
Absolument pas. Non. Ok. En gros, je comprends pas comment ils considèrent encore que c'est que ça reste une théorie et que c'est pas avéré. Alors même que il y a des identités de genre différentes qui existent.
Ouais.
Donc c'est un constat.
Oui, tu veux dire qu'ils le réduisent à une idéologie. Alors,
ouais,
sans
il nie tout à fait il
le côté matériel de ce truc-là, quoi.
Ouais, voilà. La réalité.
Et comment après, ouais, finalement, alors qu'on a déjà montré que on nous apprenait nos genres, c'est-à-dire que on se rend bien compte que quand t'es une petite fille, on t'apprend à être une petite fille, et quand t'es un petit garçon, on t'apprend à être un petit garçon, et que ça vient pas de ton ADN, c'est pas écrit dans tes gènes comment tu te comportes, quoi. Comment on a réussi à montrer que c'était le fruit d'un processus culturel, quoi. Comment finalement ça suffit pas en soi à prouver que c'est pas une théorie, quoi. Je comprends pas comment.
Parce que en fait, c'est du conservatisme poussé à l'extrême et qui ne réfléchit pas plus que selon certaines angoisses de.
Ah non, mais là ça ressemble même à une blague, quoi.
De la destruction de la famille, de l'ordre symbolique, des frontières. Enfin, là on peut mettre tout dans le même panier. Franchement, j'ai aucun scrupule. Hein. On peut mettre les nationalistes, les conservateurs, les homophobes, les machins. Enfin, ils vont tous ensemble là dans ce discours-là. Ils rentrent tous.
Bah ouais, parce que
ces catégories rentrent.
C'est tellement pas construit qu'on peut pas avoir une seule idéologie ou une seule appartenance se détacher. Enfin, il y a pas de.
Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Voilà, donc globalement, bon, j'ai un peu fini parce qu'après ça, il continue. En fait, il tire les conséquences de cette théorie qui dans son sens aurait un sens subversif qui pousserait à l'indifférenciation des sexes et qui pourrait inspirer notre législation. Au passage, juste, j'avais lu à l'époque un article dans Libération qui était exactement dans le cadre de cette polémique et qui donc réduisait en gros la théorie du genre, je précise, c'est mis au singulier dans les débats, à en gros une idéologie qui pousserait à penser qu'il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme. Donc c'est très drôle parce que c'est une simplification et d'une simplicité extrême qui ne veut plus rien dire, en fait. Ça prouve juste qu'il y a une espèce de volonté d'ancrer la différence sexuelle en nature, enfin un truc vraiment une angoisse, quoi, un truc, bref. Et donc les conséquences de tout ça, hein, évidemment, c'est à remettre dans le débat qu'on va pas vous refaire parce que bon, je pense qu'on en a assez rebâti les oreilles, mais du dit mariage pour tous et donc de la question de l'indifférenciation de la différence sexuelle dans le droit même, dans le droit, c'est-à-dire que la France en fait cautionnerait cette indifférenciation dans les droits au mariage, etc. dans l'éducation. Et donc là, du coup, je rebondis rapidement sur un dernier truc une dernière polémique qui a été lancée par Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation nationale, qui évidemment a été pas mal stimulé, hein, par toutes les Frigide Barjot et consorts qui se sont déchaînés autour de la théorie du gender, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais Zab a écrit et a parlé sur Jean Rage dans les premières émissions qu'on avait faites sur autour justement du Touche pas à mon sexe publié par Frigide Barjot, qui a été très vite censuré, mais qui parlait en fait en gros de ces fameuses théories du gender en mentionnant Butler et Wittig alors que c'était criant qu'elle les avait pas lues. Voilà.
À croire que d'ailleurs Frigide Barjot fait pas partie de l'Assemblée nationale.
Ouais, c'est clair. J'ai vérifié, non, elle en fait pas partie, mais je suis sûre que ils ont leur numéro de téléphone. Les uns les autres, ils s'appellent le soir. Enfin voilà. Et du coup, bah en fait, Vincent Peillon a ensuite rebondi parce que il était question donc
le gouvernement, enfin que les écoles assurent en fait les conditions d'une éducation à l'égalité des genres, etc. Donc il y a eu toute cette polémique autour de l'environnement scolaire et Payon avait affirmé face à toute ce tollé réactionnaire médiatique, nous sommes pour l'égalité filles-garçons, mais pas pour la théorie du genre. Voilà. Donc Vincent, donc ce théorie du genre, c'est très très drôle parce que donc ça c'est un ensemble de chercheurs et chercheuses qui ont écrit un article sur Mediapart pour répondre à Payon et qui ont montré que donc la théorie du genre dans les médias etc a été construite en figure repoussoir épouvantail et qui n'avait plus aucun sens en fait, qui servait juste à finalement rassembler les oppositions de chacun, etc., mais qui n'a plus aucun sens. On est pour l'égalité filles-garçons, on est contre la théorie du genre, c'est complètement contradictoire. Et puis surtout, la théorie du genre, ça ne veut rien dire, puisque évidemment, la théorie du genre, voilà, il y a des théories du genre qui sont plurielles. Le genre est un concept qui existe depuis des années, on va pas justement refaire la généalogie parce que cette généalogie fait précisément l'objet d'une polémique sur laquelle je reviens dans deux minutes et qui, construit le genre comme un bloc théorique monolithique, dogmatique et prétend en fait, enfin les personnes qui parlent de théorie du genre prétendent être apolitiques, alors qu'il est évident que sous cette prétendue position apolitique, il y a la peur de l'indifférenciation homme-femme et d'une volonté de maintenir les inégalités en fait. Et justement à propos de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de qu'est-ce que le terme genre. Donc franchement, on va pas revenir là-dessus parce qu'on en aurait pour une après-midi, une soirée, une nuit, parce que justement, on peut pas en parler en trois lignes. Mais en tout cas, il était question. Il y a eu un groupe Facebook qui a été créé il y a quelques semaines autour de l'inventeur l'inventeur. Hein, donc c'est une sorte de Léonard de Vinci, l'inventeur des gender studies. Alors qui est l'inventeur des gender studies? Et eh ben c'est gender. Non, je rigole. Non, alors toute le nom du groupe féminin.
Ah, les gender studies du nom de son inventeur.
Et le nom, donc le groupe s'appelle, c'est une page Facebook qui s'appelle Toute la vérité sur l'inventeur des gender studies. Juste petite précaution, n'allez pas vous amuser à polémiquer avec eux parce que je crois qu'ils sont assez violents et qu'ils vont pirater les Facebook et tout. Enfin bref. Donc en gros leur idée, hein, ils ont une idée. C'est qu'ils ont découvert que John Money, qui donc est un psychiatre, psychanalyste américain, qui dans les années 50, c'est en effet lui qui a introduit pour la première fois le terme de genre, de gender justement, et qui ensuite, bon, le terme de genre a été manipulé dans tous les sens pas possibles. Enfin bref, ce n'est pas John Money qui a la propriété de son sens et de son articulation théorique et politique. Et donc bref, en gros, lui serait un violent pédophile. Voilà, donc en fait, les gender studies auraient été inventés par un pédophile, donc il faudrait quand même faire attention à ces enfants qui sont menacés par une bande de pédophiles qui vont venir vous violer vos enfants. Voilà, donc pour
ce qui rejoint tous les superbes mots qui ont été dits par rapport aux couples du même sexe qui voulaient se marier, tout ça.
Ouais, alors justement, eux, ils sont très très prudents, parce qu'ils précisent, nous ne sommes pas homophobes, nous sommes apolitiques, donc il n'est pas question d'accuser l'homosexualité, mais bien d'accuser la théorie du gender, dont on ne sait pas quel est cet ovni, qui a été créé par un pédophile, en fait. Justement, leur stratégie, c'est d'essayer de se désidentifier d'une homophobie revendiquée, en tout cas. Voilà. Mais bon, évidemment, enfin, je veux dire, ce que tu dis est criant, quoi. Je veux dire, on y pense direct, quoi. Mais ouais, voilà. Et bon, en fait, John Money, enfin, on va pas revenir vraiment des heures dessus, mais bon, il a en effet construit le terme de genre parce que il a, disons qu'il a été il a travaillé en fait sur des personnes transsexuelles. Enfin, j'aime pas dire ça, c'est pas la bonne formule, mais en tout cas, il a il a pris conscience que on ne pouvait qu'il n'y avait pas une correspondance entre le sexe biologique et ensuite l'identification de genre. Et donc c'est pour ça qu'il a créé ce terme. La question de la pédophilie, alors là, il est évidemment pas pédophile. Enfin bon, les détails de ce truc sont assez, c'est un peu n'importe quoi. Mais il est question qu'il était, qu'il a participé à un moment donné à rédiger des articles dans une revue, comment on appelle ça, qui était en faveur de la libéralisation et la libéralisation des mœurs et notamment la réhabilitation peut-être des pédophiles en tant que qui n'est pas une pathologie en fait. Il faut quand même remettre dans un contexte parce que évidemment les personnes qui ont produit cette page, sont créé cette page-là n'ont pas du tout contextualisé. On est quand même dans un contexte 68ard de libéralisation des mœurs extrêmes et que évidemment il y a eu des discours libéralisation également au niveau de l'amour ou de la sexualité entre les générations en fait. Alors évidemment c'est très problématique aujourd'hui, il est plus question d'aborder ça sous cet angle-là, mais il faut remettre dans son contexte. Enfin, je veux dire voilà, lui il a écrit dans ce contexte-là de libéralisation des mœurs dont Foucault a participé. Enfin je veux dire Foucault quoi merde auquel Foucault a participé. Donc bon. Bref, donc voilà, en gros, j'ai terminé avec ces petits retours sur les polémiques, et puis bah, je sais pas, là je vais peut-être, juste avant de passer la parole à Zab, passer un extrait d'une manif de droite pour donner un petit peu le tableau, la couleur à tout ce déchaînement politique. Vous allez écouter le genre de, je sais pas, ce à quoi en fait nous a fait penser tout cet ensemble de conservateurs.
Et puis une petite chanson aussi après de Anne Sylvestre, Non tu n'as pas de nom.
Ouais, exactement. Voilà. Non tu n'as pas de nom.
En introduction.
En introduction à.
Vous comprendrez.
Ouais, exactement.
Le clergé avec nous. Le clergé avec nous. Le clergé avec nous. Va, va Esmeralda. Va, va Esmeralda. Va, va Esmeralda. Mort à Victor Hugo. Mort. Victor Hugo, Jésus revient avec Jean-Pierre Raffarin. Jésus revient avec Jean-Pierre Raffarin. Monsieur Bush, priez pour nous. Monsieur Bush, priez pour nous.
Philippe, dans ma famille, on est toujours à l'heure. Hein. C'est la politesse des rois.
Et donc,
il va falloir partir à l'heure, hein, si c'est possible.
Les hommes devant,
les femmes derrière. Les hommes devant, les femmes derrière, les hommes devant.
On n'est plus chez nous à Paris, prenez-nous Tibérie. On n'est plus chez nous à Paris, prenez-nous Tibérie.
Tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense, non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être, tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre. Si ce n'était pas un piège, ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme, qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre, que savent-ils de mon ventre? Pensent-ils qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Déjà, tu me mobilises, je sens que je m'amenuise, et d'instinct je te résiste, depuis si longtemps j'existe, depuis si longtemps je t'aime. mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse, qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense, non, non, tu n'as pas de nom. À supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive, mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite, mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien deux victimes. Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom, ils en ont bien de la chance. Ceux qui croient que ça se pense, ça se hurle, ça se souffre, c'est la mort, c'est le gouffre, c'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche, c'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine. Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
Oui, donc nous sommes de retour. Je vais vous parler maintenant de Histoire d'A, qui est un documentaire qui a été diffusé le 15 juin à l'Univers, donc il y a une semaine et quelques, et que j'ai été voir, et qui était organisé par deux doctorantes qui travaillent sur l'avortement, et en présence à la fois d'une personne qui représentait le planning familial et une autre qui représentait le MLAC, donc Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, qui a été fondée en 1973, mais qui n'existe plus puisque l'avortement a été dépénalisé et sa pratique est maintenant encadrée. Donc c'est un documentaire hyper intéressant. Il a été réalisé en 1973, au moment même où la polémique, où il y avait une entrée sur le débat. Il y avait une entrée sur la scène publique, en gros, du débat autour de l'avortement. Il a été réalisé par Charles Berlemont et Marielle Issartel. Et il donne à voir à la fois des entretiens avec des acteurs politiques, des militants, et des événements pris sur les vifs, des discussions entre militants autour de la condition féminine. Et enfin, il comporte une scène qui est assez surprenante au départ, qui est... une procédure d'avortement par aspiration qu'ils appellent donc la méthode Carmen, qui a été entièrement filmée, donc qui m'a assez surprise et qui a été vachement intéressante. C'est pas le genre de choses qu'on voit tous les jours dans les documentaires. C'est un documentaire aussi qui s'inscrit dans le courant du cinéma militant, puisqu'il fait la promotion de la libéralisation de l'avortement et il fait la promotion de sa pratique illégale. Et il a d'ailleurs été interdit à la diffusion et même à la vente à l'étranger en 1973 par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Maurice Druon. Suite à quoi il a été diffusé clandestinement au travers du réseau des groupes locaux du MLAC, dont je viens de parler. Donc juste un petit rappel pour... un petit rappel historique, quoi. En gros, donc c'est un film qui est réalisé en 1973 sur l'action militante en 1973, et c'est en 1975 seulement qu'est dépénalisé l'avortement sous l'égide, on va dire, de Simone Veil, qui était alors ministre de la Santé, et donc sa pratique est encadrée à ce moment-là. Cette loi autorise aussi le remboursement de la contraception qui avait pourtant été dépénalisée en 1967. Donc il y a quand même 7 ans de différence. Et c'est d'ailleurs une thématique qui est reprise dans le documentaire. Finalement, comment l'avortement est une pratique de réparation, disons. Alors, et comment il faut tenter le plus possible de mettre en place la contraception comme méthode. Enfin, de généraliser la contraception qui est plutôt considérée comme une méthode de prévention et donc plus de réparation, ce qui est le but des groupes de médecins qui ont travaillé dessus, c'était plutôt la prévention que la réparation. Donc ce documentaire met en scène plusieurs acteurs dans la lutte. Je vais revenir rapidement sur ces acteurs. Le premier, c'est le GIS, groupe d'information santé, qui a été formé en 1972 et qui rassemblait à la fois des praticiens, des étudiants en médecine et d'autres agents de la santé, et qui travaillait sur le redressement de l'information sur la santé. Il faut savoir qu'il y a quand même eu une véritable campagne de propagande sur les dangers liés à l'avortement à cette époque et sur le peu de crédibilité qu'avait la procédure tant elle paraissait facile. Donc le GIS a notamment travaillé sur surtout aux femmes, mais également aux hommes, sur l'avortement et sur les méthodes contraceptives également. Ensuite, un autre acteur de cette lutte, acteur majeur, le MLAC, dont je viens de parler, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, qui a été fondé en 1973 et qui a été dissous en 1975 quand la loi est passée, et qui avait pour but d'aider les femmes souhaitant avorter à le faire dans des pays où la procédure était déjà légale, notamment les Pays-Bas et l'Angleterre, donc qui organisait le voyage des femmes qui souhaitaient se faire avorter. L'association a également participé à la lutte pour le droit à l'avortement et elle a été la première à dénoncer notamment la politique nataliste qui avait cours en France suite au dépeuplement qui avait causé la Première Guerre mondiale et la Seconde aussi. Suzanne, je me souviens que tu avais parlé de ça juste avant.
Oui, en fait, dans les années 1920, c'est ça, la loi scélérate qui... en fait, oui, dans ces années-là, dans ces années de militantisme pro-avortement et libéralisation de la contraception, il y avait notamment, parmi les premières revendications, la volonté de mettre fin à la loi scélérate qui avait été promue dans un contexte nataliste à fond et
de repeuplement.
De repeuplement et qui en gros réprimait l'avortement de façon XXL quoi.
Et du coup, donc le MLAC a été une des premières associations à dénoncer cette politique de repeuplement, qui par ailleurs était très pas paradoxal, mais qui avait des positions complètement contradictoires, puisque l'avortement et la contraception étaient promus dans les dom-tom à la même époque pour éviter le développement de la natalité dans ces zones où les allocations familiales n'étaient pas versées aux mères. Donc ça, c'est Xavier Gauthier qui l'avait remarqué dans son ouvrage « Chaque jour, une femme mourait, avortement, contraception, l'enjeu du siècle » qui est sorti dans les années 2000. Et enfin, cette association a aussi donné de la visibilité aux avortements qui étaient déjà pratiqués à l'époque de manière clandestine, donc selon la méthode Carmen, et a permis aussi à la fois aux médecins et aux femmes qui avortaient d'avoir une couverture juridique en cas de procès quoi. Et enfin, le dernier acteur majeur de cette lutte pour la libéralisation de l'avortement, le MLF, donc Mouvement de Libération des Femmes, mouvement non mixte dès le départ et qui a contribué depuis 1970 avec des actions généralement provocatrices et via les médias à dissocier dans les esprits procréation et sexualité. Et ça a été aussi une des premières assauts à affirmer le droit à une orientation sexuelle autre que l'hétérosexualité dans ce contexte-là de libéralisation sexuelle. Voilà, donc c'était un documentaire qui était très intéressant, qui fait absolument pas débat, puisque il y a un parti pris qui est clairement affiché dans le documentaire, qui est celle de la promotion des avortements clandestins à cette époque-là et de la lutte pour la libéralisation de l'avortement et de la contraception. Il était intéressant à la fois d'un point de vue technique avec cette scène d'avortement qui est rarement visualisable, enfin qu'on montre rarement quoi, et décidément militant puisqu'il dénonce la propagande orchestrée par le pouvoir médical et fait la promotion de la liberté d'avorter sur fond de désobéissance civile. Voilà, c'est terminé.
Bon, bah chouette, je pense qu'on a terminé. Et puis, bah si vous voulez retrouver l'émission, vous pouvez la podcaster sur le WordPress de Jean Rage, www.jeanrage.wordpress.com. Ou alors, vous pouvez nous retrouver également sur Facebook, Jean Rage, et sur Twitter maintenant, Jean Rage également. Et enfin...
On est hype.
Ouais, on commence à être hype. Et voilà, donc bah dans 2 semaines. Et puis en attendant, féministez-vous.
Comment ? Et bonne nuit. Genderisez-vous.
Genderisez-vous.